When we started writing our thoughts down on paper, it opened up endless possibilities. Ideas could grow beyond the borders of the mind, and it changed the world. Somewhere along the way, we lost touch with paper, distracted by devices made for every purpose except for thinking and focus. On edge, waiting for the next notification. But what if new technology didn't pull us away from paper, but brought us closer to it? Listen. That's not paper. It's the sound of the new Remarkable Paper Pro, rewriting the future. A paper tablet with a true color ink display, gentle reading light, and unheard of tactility. With digital features for taking notes, thinking, and organizing, without any distractions. Paper is about to change the world again. Get your paper tablet at remarkable.com today.
Préface de Le Portrait de Dorian Gray. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Linda Olsen-Fytok, Los Angeles. Le Portrait de Dorian Gray, par Oscar Wilde. Traduit par Eugène Tardieu. 1920. Préface. Un artiste est un créateur de belles choses. Révéler l'art en cachant l'artiste, tel est le but de l'art. Le critique est celui qui peut traduire dans une autre manière ou avec de nouveaux procédés l'impression que lui laissèrent de belles choses. L'autobiographie est à la fois la plus haute et la plus basse des formes de la critique. Ceux qui trouvent de laides intentions en de belles choses sont corrompus sans être séduisants, et c'est une faute. Ceux qui trouvent de belles intentions dans les belles choses sont cultivés. Il reste à ceux-ci l'espérance. Ce sont les élus pour qui les belles choses signifient simplement la beauté. Un livre n'est point moral ou immoral. Il est bien ou mal écrit, c'est tout. Le dédain du XIXe siècle pour le réalisme est tout pareil à la rage de Caliban apercevant sa face dans un miroir. Le dédain du XIXe siècle pour le romantisme est semblable à la rage de Caliban n'apercevant pas sa face dans un miroir. La vie morale de l'homme forme une part du sujet de l'artiste, mais la moralité de l'art consiste dans l'usage parfait d'un moyen imparfait. L'artiste ne désire prouver quoi que ce soit. Même les choses vraies peuvent être prouvées. L'artiste n'a point de sympathie éthique. Une sympathie morale dans un artiste amène un maniérisme impardonnable du style. L'artiste n'est jamais pris au dépourvu. Il peut exprimer toute chose. Pour l'artiste, la pensée et le langage sont les instruments d'un art. Le vice et la vertu en sont les matériaux. Au point de vue de la forme, le type de tous les arts est la musique. Au point de vue de la sensation, c'est le métier de comédien. Tout art est à la fois surface et symbole. Ceux qui cherchent sous la surface le font à leur risque et péril. Ceux-là aussi qui tentent de pénétrer le symbole. C'est le spectateur et non la vie que l'art reflète réellement. Les diversités d'opinions sur une œuvre d'art montrent que cette œuvre est nouvelle, complexe et viable. Alors que les critiques diffèrent, l'artiste est en accord avec lui-même. Nous pouvons pardonner à un homme d'avoir fait une chose utile aussi longtemps qu'il ne l'admire pas. La seule excuse d'avoir fait une chose inutile est de l'admirer intensément. L'art est tout à fait inutile. Oscar Wilde. Fin de la préface. Chapitre 1 de Le portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Linda Olsen-Fytock, Los Angeles. L'atelier était plein de l'odeur puissante des roses. Et quand une légère brise d'été souffla parmi les arbres du jardin, il vint par la porte ouverte la senteur lourde des lilas et le parfum plus subtil des églantiers. D'un coin du divan fait de sacs persans, sur lequel il était étendu, fumant, selon sa coutume, d'innombrables cigarettes, Lord Henry Wotton pouvait tout juste apercevoir le rayonnement des douces fleurs couleur de miel d'un arbour dont les tremblantes branches semblaient à peine pouvoir supporter le poids d'une aussi flamboyante splendeur. Et de temps à autre, les ombres fantastiques des oiseaux fuyants passaient sur les longs rideaux de tussors tendus devant la large fenêtre, produisant une sorte d'effet japonais momentané, le faisant penser à ces peintres de Tokyo à la figure de jade pallide qui, par le moyen d'un art nécessairement immobile, tente d'exprimer le sens de la vitesse et du mouvement. Le murmure monotone des abeilles cherchant leur chemin dans les longues herbes non fauchées ou voltigeant autour des poudreuses baies dorées d'un chèvrefeuille isolé, faisait plus oppressant encore ce grand calme. Le sourd grondement de Londres semblait comme la note bourdonnante d'un orgue éloigné. Au milieu de la chambre, sur un cheval étroit, s'érigeait le portrait grandeur naturelle d'un jeune homme d'une extraordinaire beauté, et en face était assis, un peu plus loin, le peintre lui-même, Basil Hallward, dont la disparition soudaine quelques années auparavant avait causé un grand émoi public et donné naissance à tant de conjectures. Comme le peintre regardait la gracieuse et charmante figure que son art avait si subtilement reproduite, un sourire de plaisir passa sur sa face et parut s'y attarder. Mais il tressaillit soudain et, fermant les yeux, mit les doigts sur ses paupières comme s'il eût voulu emprisonner dans son cerveau quelque étrange rêve dont il eût craint de se réveiller. « Ceci est votre meilleure œuvre, Basil, la meilleure chose que vous ayez jamais faite, » dit Lord Henry languissamment. « Il faut l'envoyer l'année prochaine à l'exposition Grosvenor. L'académie est trop grande et trop vulgaire. Chaque fois que j'y suis allé, il y avait tant de monde qu'il m'a été impossible de voir les tableaux, ce qui était épouvantable, ou tant de tableaux que je n'ai pu y voir le monde. » Ce qui était encore plus horrible. Grosvenor est encore le seul endroit convenable. Je ne crois pas que j'enverrai ceci quelque part, répondit le peintre en rejetant la tête de cette singulière façon qui faisait se moquer de lui ses amis d'Oxford. Non, je n'enverrai ceci nulle part. Lord Henry leva les yeux, le regardant avec étonnement à travers les minces spirales de fumée bleue qui s'entrelaçaient fantaisistement au bout de sa cigarette opiacée. « Vous n'en verrez cela nulle part. Et pourquoi, mon cher ami? Quelle raison donnez-vous? Quel singulier bonshomme vous êtes, vous autres peintres! Vous remuez le monde pour acquérir de la réputation. Aussitôt que vous l'avez, vous semblez vouloir vous en débarrasser. C'est ridicule de votre part, car s'il n'y a qu'une chose au monde pire que la renommée, c'est de n'en pas avoir. Un portrait comme celui-ci vous mettrait au-dessus de tous les jeunes gens de l'Angleterre et rendrait les vieux jaloux, si les vieux pouvaient encore ressentir quelque émotion. Je sais que vous rirez de moi, répliqua-t-il, mais je ne puis réellement l'exposer. J'ai mis trop de moi-même là-dedans. » Lord Henry s'étendit sur le divan en riant. « Je savais que vous ririez, mais c'est tout à fait la même chose. »« Trop de vous-même, sur ma parole, Basil. Je ne vous savais pas si vain. Je ne vois vraiment pas de ressemblance entre vous avec votre rude et forte figure, votre chevelure noire comme du charbon, et ce jeune Adonis qui a l'air fait d'ivoire et de feuilles de rose. Car, mon cher, c'est Narcisse lui-même tandis que vous. Il est évident que votre face respire l'intelligence et le reste, mais la beauté, la réelle beauté, finit où commence l'expression intellectuelle. L'intellectualité est en elle-même un mode d'exagération et détruit l'harmonie de n'importe quelle face. Au moment où l'on s'assoit pour penser, on devient tout nez ou tout franc ou quelque chose d'horrible. Voyez les hommes ayant réussi dans une profession savante, combien ils sont parfaitement hideux, excepté naturellement dans l'église. Mais dans l'église, ils ne pensent point. Un évêque dit à l'âge de 80 ans ce qu'on lui a appris à dire à 18, et la conséquence naturelle en est qu'il a toujours l'air charmant. Votre mystérieux jeune ami, dont vous ne m'avez jamais dit le nom, mais dont le portrait me fascine réellement, n'a jamais pensé. Je suis sûr de cela. C'est une admirable créature sans cervelle qui pourrait toujours ici nous remplacer en hiver les fleurs absentes et nous rafraîchir l'intelligence en été. Ne vous flattez pas, Basil. Vous ne lui ressemblez pas le moins du monde. Vous ne me comprenez point, Harry, répondit l'artiste. Je sais bien que je ne lui ressemble pas. Je le sais parfaitement bien. Je serais même fâché de lui ressembler. Vous levez les épaules, je vous dis la vérité. Une fatalité pèse sur les distinctions physiques et intellectuelles, cette sorte de fatalité qui suit à la piste à travers l'histoire les faux pas des rois. Il vaut mieux ne pas être différent de ses contemporains. Les laids et les sots sont les mieux partagés sous ce rapport dans ce monde. Ils peuvent s'asseoir à leur aise et bâiller au spectacle. S'ils ne savent rien de la victoire, la connaissance de la défaite leur est épargnée. Ils vivent comme nous voudrions vivre sans être troublés, indifférents et tranquilles. Ils n'importunent personne, ils ne sont importunés. Mais vous, avec votre rang et votre fortune, Harry, moi, avec mon cerveau tel qu'il est, mon art, aussi imparfait qu'il puisse être, Dorian Gray avec sa beauté, nous souffrirons tous pour ce que les dieux nous ont donné. Nous souffrirons terriblement.
Dorian Gray. Est-ce son nom?
Demanda Lord Henry en allant vers Basil Hallward. Oui, c'est son nom. Je n'avais pas l'intention de vous le dire.
Et pourquoi?
Oh, je ne puis vous l'expliquer. Quand j'aime quelqu'un intensément, je ne dis son nom à personne. C'est presque une trahison. J'ai appris à aimer le secret. Il me semble que c'est la seule chose qui puisse nous faire la vie moderne mystérieuse ou merveilleuse. La plus commune des choses nous paraît exquise si quelqu'un nous la cache. Quand je quitte cette ville, je ne dis à personne où je vais. En le faisant, je perdrai tout mon plaisir. C'est une mauvaise habitude, je l'avoue, mais en quelque sorte, elle apporte dans la vie une part de romanesque. Je suis sûr que vous devez me croire fou à m'entendre parler ainsi.
Pas du tout, répondit Lord Henry, pas du tout.
Tout, mon cher Basil, vous semblez oublier que je suis marié et que le seul charme du mariage est qu'il fait une vie de déception absolument nécessaire aux deux parties. Je ne sais jamais où est ma femme et ma femme ne sait jamais ce que je fais.
quand nous nous rencontrons, et nous nous rencontrons de temps à autre, quand nous dînons ensemble dehors ou que nous allons chez le duc, nous nous contons les plus absurdes histoires de l'air le plus sérieux du monde. Dans cet ordre d'idées, ma femme m'est supérieure. Elle n'est jamais embarrassée pour les dates, et je le suis toujours. Quand elle s'en rend compte, elle ne me fait point de scène. Parfois, je désirerais qu'elle m'en fît, mais elle se contente de me rire au nez.
Je n'aime pas cette façon de parler de votre vie conjugale, Harry, dit Basil Hallward, en allant vers la porte conduisant au jardin. Je vous crois un très bon mari honteux de ses propres vertus. Vous êtes un être vraiment extraordinaire. Vous ne dites jamais une chose morale, et jamais vous ne faites une chose mauvaise. Votre cynisme est simplement une pose.
Être naturel est aussi une pose, et la plus irritante que je connaisse, s'exclama en riant Lord Henry.
Les deux jeunes gens s'en allèrent ensemble dans le jardin et s'assirent sur un long siège de bambou posé à l'ombre d'un buisson de laurier. Le soleil glissait sur les feuilles polies. De blanches marguerites tremblaient sur le gazon. Après un silence, Lord Henry tira sa montre.
« Je dois m'en aller, Basil, » murmura-t-il. « Mais avant de partir, j'aimerais avoir une réponse à la question que je vous ai posée tout à l'heure. »«
Quelle question ?» dit le peintre, restant les yeux fixés à terre.
« Vous la savez ?»«
Mais non, Harry. »«
Bien, je vais vous la redire. » J'ai besoin que vous m'expliquiez pourquoi vous ne voulez pas exposer le portrait de Dorian Gray. Je désire en connaître la vraie raison.
Je vous l'ai dite.
Non pas ! Vous m'avez dit que c'était parce qu'il y avait beaucoup trop de vous-même dans ce portrait. Cela est enfantin.
Harry, dit Basil Hallward, le regardant droit dans les yeux. Tout portrait peint compréhensivement est un portrait de l'artiste, non du modèle. Le modèle est purement l'accident, l'occasion. Ce n'est pas lui qui est révélé par le peintre. C'est plutôt le peintre qui, sur la toile colorée, se révèle lui-même. La raison pour laquelle je n'exhiberai pas ce portrait consiste dans la terreur que j'ai de montrer par lui le secret de mon âme.
Lord Henry se mit à rire. « Et quel est-il ? » ?»«
Je vous le dirai, » répondit Hallward, la figure assombrie.
« Je suis tout oreille, Basil, » continua son compagnon.
« Oh, c'est vraiment peu de choses, Harry, » repartit le peintre, « et je crois bien que vous ne le comprendrez point. Peut-être à peine le croirez-vous. »
Lord Henry sourit. Se baissant, il cueillit dans le gazon une marguerite aux pétales roses et l'examinant.
« Je suis tout à fait sûr que je comprendrai cela, » dit-il en regardant attentivement le petit disque doré aux pétales blancs. « Et quant à croire aux choses, je les crois toutes, pourvu qu'elles soient incroyables. »
Le vent détacha quelques fleurs des arbustes et les lourdes grappes de lilas se balancèrent dans l'air languide. Une cigale stridula près du mur et, comme un fil bleu, passa une longue et mince libellule dont on entendit frémir les brunes ailes de gaz.
Lord Henry restait silencieux, comme s'il avait voulu percevoir les battements du cœur de Basil Hallward, se demandant ce qui allait se passer.
« Voici l'histoire, » dit le peintre après un temps.
Il y a 2 mois, j'allais en soirée chez Lady Brandon. Vous savez que nous autres, pauvres artistes, nous avons à nous montrer dans le monde de temps à autre, juste assez pour prouver que nous ne sommes pas des sauvages. Avec un habit et une cravate blanche, tout le monde, même un agent de change, peut-on arriver à avoir la réputation d'un être civilisé ? J'étais donc dans le salon depuis une dizaine de minutes, causant avec des douairières lourdement parées ou de fastidieux académiciens, quand soudain je perçus obscurément que quelqu'un m'observait. Je me tournai à demi et pour la première fois, je vis Dorian Gray. Nos yeux se rencontrèrent et je me sentis pâlir. Une singulière terreur me poignit. Je compris que j'étais en face de quelqu'un dont la simple personnalité était si fascinante que, si je me laissais faire, elle m'absorberait en entier, moi, ma nature, mon âme et mon talent même. Je ne veux aucune influence extérieure dans ma vie. Vous savez, Harry, combien ma nature est indépendante. J'ai toujours été mon maître. Je l'avais tout au moins toujours été, jusqu'au jour de ma rencontre avec Dorian Gray. Alors, mais je ne sais comment vous expliquer ceci. Quelque chose semblait me dire que ma vie allait traverser une crise terrible. J'eus l'étrange sensation que le destin me réservait d'exquises joies et des chagrins exquis. Je m'effrayais et me disposais à quitter le salon. Ce n'est pas ma conscience qui me faisait agir ainsi. Il y avait une sorte de lâcheté dans mon action. Je ne vis point d'autre issue pour m'échapper.
La conscience et la lâcheté sont réellement les mêmes choses, Basil. La conscience est le surnom de la fermeté, c'est tout.
Je ne crois pas cela, Harry, et je pense que vous ne le croyez pas non plus. Cependant, quel qu'en fût alors le motif, c'était peut-être l'orgueil. Car je suis très orgueilleux. Je me précipitai vers la porte. Là, naturellement, je me heurtai contre Lady Brandon.
« Vous n'avez pas l'intention de partir si vite, monsieur Hallward !» s'écria-t-elle.
« Vous connaissez le timbre aigu de sa voix. »«
Oui, elle me fait l'effet d'un pont, sauf pour la beauté, » dit Lord Henry, effeuillant la marguerite de ses longs doigts nerveux.
Je ne pus me débarrasser d'elle. Elle me présenta à des altesses et à des personnes portant étoiles et jarretières, à des dames mûres, affublées de tiares gigantesques de nez de perroquet. Elle parla de moi comme de son meilleur ami. Je l'avais seulement rencontrée une fois auparavant, mais elle s'était mise en tête de me lancer. Je crois que l'un de mes tableaux avait alors un grand succès et qu'on en parlait dans les journaux de dessous qui sont, comme vous le savez, les étendards d'immortalité du XIXe siècle. Soudain, je me trouvai face à face avec le jeune homme dont la personnalité m'avait si singulièrement intrigué. Nous nous touchions presque. De nouveau, nos regards se rencontrèrent. Ce fut indépendant de ma volonté, mais je demandai à Lady Brandon de nous présenter l'un à l'autre. Peut-être, après tout, n'était-ce pas si téméraire, mais simplement inévitable. Il est certain que nous nous serions parlé sans présentation préalable. J'en suis sûr pour ma part, et Dorian plus tard me dit la même chose. Il avait senti, lui aussi, que nous étions destinés à nous connaître. « Et comment, Lady Brandon, vous parla-t-elle de ce merveilleux jeune homme ?» demanda l'ami. « Je sais qu'elle a la marotte de donner un précis rapide de chacun de ses invités. » Je me souviens qu'elle me présenta une fois à un apoplectique et triculant gentleman, couvert d'ordre et de rubans, et sur lui me souffla à l'oreille, sur un mode tragique, les plus abasourdissants détails qui durent être perçus de chaque personne alors dans le salon. Cela me mit en fuite. J'aime connaître les gens par moi-même. Lady Brandon traite exactement ses invités comme un commissaire priseur ses marchandises. Elle explique les manies et coutumes de chacun, mais oublie naturellement tout ce qui pourrait vous intéresser au personnage. Pauvre Lady Brandon, vous êtes dure pour elle, observa nonchalamment Hallward. Mon cher ami, elle essaya de fonder un salon, et elle ne réussit qu'à ouvrir un restaurant. Comment pourrais-je l'admirer? Mais dites-moi, que vous confia-t-elle sur M. Dorian Gray? Oh, quelque chose de très vague dans ce genre.
Charmant garçon, sa pauvre chère mère et moi étions inséparables. Tout à fait oublié ce qu'il fait. Ou plutôt je crains qu'il ne fasse rien. Ah si, il joue du piano. Ne serait-ce pas plutôt du violon, mon cher monsieur Gray?
Nous ne pûmes tous deux nous empêcher de rire, et du coup nous devînmes amis. L'hilarité n'est pas du tout un mauvais commencement d'amitié, et c'est loin d'en être une mauvaise fin, dit le jeune lord en cueillant une autre marguerite. Hallward secoua la tête. « Vous ne pouvez comprendre, Harry, murmura-t-il, quelle sorte d'amitié ou quelle sorte de haine cela peut devenir dans ce cas particulier.
Vous aimez tout le monde, ce qui est comme si vous n'aimiez personne.
« Comme vous êtes injuste !» s'écria Lord Henry, mettant en arrière son chapeau et regardant au ciel les petits nuages
qui, comme des floches de soie blanche, fuyaient dans le bleu turquoise du ciel d'été.
« Oui, horriblement injuste. J'établis une grande différence entre les gens. Je choisis mes amis pour leur bonne mine, mes simples camarades pour leur caractère et mes ennemis pour leur intelligence. Un homme ne saurait trop attacher d'importance au choix de ses ennemis. Je n'en ai point un seul qui soit un sot. Ce sont tous hommes d'une certaine puissance intellectuelle et par conséquent, ils m'apprécient. Est-ce très vain de ma part d'agir ainsi? Je crois que c'est plutôt vain. Je pense que ça l'est aussi, Harry. Mais, m'en référant à votre manière de sélection, je dois être pour vous un simple camarade. Mon bon et cher Basil, vous m'êtes mieux qu'un camarade. Et moins qu'un ami, une sorte de frère, je suppose. Un frère? Je ne me moque pas mal des frères. Mon frère aîné ne veut pas mourir, et mes plus jeunes semblent vouloir l'imiter. « Harry !» protesta Hallward sur un ton chagrin. « Mon bon, je ne suis pas tout à fait sérieux, mais je ne puis m'empêcher de détester mes parents. Je suppose que cela vient de ce que chacun de nous ne peut supporter de voir d'autres personnes ayant les mêmes défauts que soi-même. » Je sympathise tout à fait avec la démocratie anglaise dans sa rage contre ce qu'elle appelle les vices du grand monde. La masse sent que l'ivrognerie, la stupidité et l'immoralité sont sa propriété, et si quelqu'un d'entre nous assume l'un de ses défauts, il paraît braconner sur ses chasses. Quand ce pauvre Southwark vint devant la cour du divorce, l'indignation de cette même masse fut absolument magnifique, et je suis parfaitement convaincu que le dixième du peuple ne vit pas comme il conviendrait. Je n'approuve pas une seule des paroles que vous venez de prononcer, et je sens, Harry, que vous ne les approuvez pas plus que moi. Lord Henry caressa sa longue barbe brune taillée en pointe et tapotant avec sa canne d'ébène ornée de glands, sa bottine de cuir fin. « Comme vous êtes bien anglais, Basil. Voici la seconde fois que vous me faites cette observation. Si l'on fait part d'une idée à un véritable Anglais, ce qui est toujours une chose téméraire, il ne cherche jamais à savoir si l'idée est bonne ou mauvaise. La seule chose à laquelle il attache quelque importance est de découvrir ce que l'on en pense soi-même. D'ailleurs, la valeur d'une idée n'a rien à voir avec la sincérité de l'homme qui l'exprime. À la vérité, il y a de fortes chances pour que l'idée soit intéressante en proportion directe du caractère insincère du personnage, car, dans ce cas, elle ne sera colorée par aucun des besoins, des désirs ou des préjugés de ce dernier. Cependant, je ne me propose pas d'aborder les questions politiques, sociologiques ou métaphysiques avec vous. J'aime mieux les personnes que leurs principes, et j'aime encore mieux les personnes sans principes que n'importe quoi au monde. Parlons encore de M. Dorian Gray. L'avez-vous vu souvent? Tous les jours. Je ne saurais être heureux si je ne le voyais chaque jour. Il m'est absolument nécessaire. Vraiment curieux. Je pensais que vous ne vous souciez d'autre chose que de votre art.
Il est tout mon art maintenant, répliqua le peintre gravement.
Je pense quelquefois, Harry, qu'il n'y a que deux airs de quelque importance dans l'histoire du monde. La première est l'apparition d'un nouveau moyen d'art, et la seconde, l'avènement d'une nouvelle personnalité artistique. Ce que la découverte de la peinture fut pour les Vénitiens, la face d'Antinous pour l'art grec antique, Dorian Gray me le sera quelque jour. Ce n'est pas simplement parce que je le peins, que je le dessine ou que j'en prends des esquisses. J'ai fait tout cela d'abord. Il m'est beaucoup plus qu'un modèle. Cela ne veut point dire que je sois peu satisfait de ce que j'ai fait d'après lui, ou que sa beauté soit telle que l'art ne la puisse rendre. Il n'est rien que l'art ne puisse rendre. Et je sais fort bien que l'œuvre que j'ai faite depuis ma rencontre avec Dorian Gray est une belle œuvre, la meilleure de ma vie. Mais, d'une manière indécise et curieuse, je m'étonnerais que vous puissiez me comprendre. Sa personne m'a suggéré une manière d'art entièrement nouvelle, un mode d'expression entièrement nouveau. Je vois les choses différemment. Je les pense différemment. Je puis maintenant vivre une existence qui m'était cachée auparavant. Une forme rêvée en des jours de pensée. Qui a dit cela? Je ne m'en souviens plus. Mais c'est exactement ce que Dorian Gray m'a été. La simple présence visible de cet adolescent. Car il ne me semble guère qu'un adolescent, bien qu'il ait plus de 20 ans. La simple présence visible de cet adolescent. Ah! Je m'étonnerais que vous puissiez vous rendre compte de ce que cela signifie. Inconsciemment, il définit pour moi les lignes d'une école nouvelle, d'une école qui unirait la passion de l'esprit romantique à la perfection de l'esprit grec. L'harmonie du corps et de l'âme. Quel rêve! Nous, dans notre aveuglement, nous avons séparé ces deux choses et avons inventé un réalisme qui est vulgaire, une idéalité qui est vide. Harry, ah, si vous pouviez savoir ce que m'est Dorian Gray! Vous vous souvenez de ce paysage pour lequel Agnew m'offrit une somme si considérable, mais dont je ne voulus me séparer? C'est une des meilleures choses que j'ai jamais faites. Et savez-vous pourquoi? Parce que, tandis que je le peignais, Dorian Gray était assis à côté de moi. Quelque subtile influence passa de lui en moi-même, et pour la première fois de ma vie, je surpris dans le paysage ce je ne sais quoi que j'avais toujours cherché et toujours manqué.
Basil, cela est stupéfiant. Il faut que je voie ce Dorian Gray.
Hallward se leva de son siège et marcha de long en large dans le jardin. Il revint un instant après.
Harry, dit-il,
Dorian Gray, mais simplement un motif d'art. Vous, vous ne verriez rien en lui. Moi, j'y vois tout. Il n'est jamais plus présent dans ma pensée que quand je ne vois rien de lui me le rappelant. Il est une suggestion, comme je vous l'ai dit, d'une nouvelle manière. Je le trouve dans les courbes de certaines lignes, dans l'adorable et le subtil de certaines nuances, c'est tout.
Alors, pourquoi ne voulez-vous point exposer son portrait ? Demanda de nouveau Lord Henry.
Parce que, sans le vouloir, j'y ai mis l'expression de toute cette étrange idolâtrie artistique dont je ne lui ai jamais parlé. Il n'en sait rien. Il l'ignorera toujours, mais le monde peut la deviner. Et je ne veux découvrir mon âme au bas regard quêteur. Mon cœur ne sera jamais mis sous un microscope. Il y a trop de moi-même dans cette chose, Harry, trop de moi-même.
Les poètes ne sont pas aussi scrupuleux que vous l'êtes.
Ils savent combien la passion utilement divulguée aide à la vente. Aujourd'hui, un cœur brisé se tire à plusieurs éditions.
Je les hais pour cela, clama Hallward.
Un artiste doit créer de belles choses, mais ne doit rien mettre de lui-même en elles. Nous vivons dans un âge où les âmes ne voient l'art que sous un aspect autobiographique. Nous avons perdu le sens abstrait de la beauté. Quelque jour, je montrerai au monde ce que c'est, et pour cette raison, le monde ne verra jamais mon portrait de Dorian Gray.
Je pense que vous avez tort, Basil, mais je ne veux pas discuter avec vous.
Je ne m'occupe que de la perte intellectuelle.
Dites-moi, Dorian Gray vous aime-t-il ?
Le peintre sembla réfléchir quelques instants.
Il m'aime, répondit-il après une pause. Je sais qu'il m'aime. Je le flatte beaucoup, cela se comprend.
Je trouve un étrange plaisir à lui dire des choses que certes je serais désolé d'avoir dites. D'ordinaire, il est tout à fait charmant avec moi, et nous passons des journées dans l'atelier à parler de mille choses. De temps à autre, il est horriblement étourdi et semble trouver un réel plaisir à me faire de la peine. Je sens, Harry, que j'ai donné mon âme entière à un être qui la traite comme une fleur à mettre à son habit, comme un bout de ruban pour sa vanité, comme la parure d'un jour d'été.
« Les jours d'été sont bien longs, » souffla Lord Henry.
« Peut-être vous fatiguerez-vous de lui plutôt qu'il ne le voudra. C'est une triste chose à penser, mais on ne saurait douter que l'esprit dure plus longtemps que la beauté. Cela explique pourquoi nous prenons tant de peine à nous instruire. Nous avons besoin, pour la lutte effrayante de la vie, de quelque chose qui demeure, et nous nous emplissons l'esprit de ruines et de fêtes dans l'espérance niaise de garder notre place.
L'homme bien informé, voilà le moderne idéal.
Le cerveau de cet homme bien informé est une chose étonnante.
C'est comme la boutique d'un bric-à-brac monstrueux et poussiéreux, amas où toute chose est cotée au-dessus de sa réelle valeur.
Je pense que vous vous fatiguerez le premier tout de même. Quelque jour, vous regarderez votre ami, et il vous semblera que ça n'est plus ça. Vous n'aimerez plus son teint ou toute autre chose. Vous le lui reprocherez au fond de vous-même, et vous finirez par penser qu'il s'est mal conduit envers vous. Le jour suivant, vous serez parfaitement froid et indifférent.
C'est regrettable, car cela vous changera. Ce que vous m'avez dit est tout à fait un roman d'art, l'appellerai-je.
Et le pire est que, lorsqu'on a un roman de n'importe quelle espèce, il vous laisse désabuser.
Harry, ne parlez pas comme cela.
Aussi longtemps que je vivrai, la personnalité de Dorian Gray me dominera.
Vous ne pouvez sentir de la même façon que moi. Vous changez trop souvent. Eh, mon cher Basil, c'est justement à cause de cela que je sens. Ceux qui sont fidèles connaissent seulement le côté trivial de l'amour. C'est la trahison qui en connaît les tragédies. Et Lord Henry, frottant une allumette sur une jolie boîte d'argent, commença à fumer avec la placidité d'une conscience tranquille et un air satisfait. Comme s'il avait défini le monde en une phrase. Un vol piaillant de passereaux s'abattit dans le vert profond des lierres, comme une troupe d'hirondelles. L'ombre bleue des nuages passa sur le gazon. Quel charme s'émanait de ce jardin! Combien, pensait Lord Henry, étaient délicieuses les émotions des autres!
Beaucoup plus délicieuses que leurs idées, lui semblait-il.
Le soin de sa propre âme et les passions de ses amis, telles lui paraissaient être les choses notables de la vie. Il se représentait, en s'amusant à cette pensée, le linge assommant que lui avait évité sa visite chez Hallward. S'il était allé chez sa tante, il eût été sûr d'y rencontrer Lord Goodbody. Et la conversation entière aurait roulé sur l'entretien des pauvres et la nécessité d'établir des maisons de secours modèles. Il aurait entendu chaque classe prêcher l'importance des différentes vertus, dont, bien entendu, l'exercice ne s'imposait point à elle-même. Le riche aurait parlé sur la nécessité de l'épargne, et le fainéant éloquemment vaticiné sur la dignité du travail. Quel inappréciable bonheur d'avoir échappé à tout cela! Soudain, comme il pensait à sa tante, une idée lui vint. Il se tourna vers Hallward.
Mon cher ami, je me souviens. Vous vous souvenez de quoi, Harry?
Où j'entendis le nom de Dorian Gray?
Où était-ce? Demanda Hallward. Avec un léger froncement de sourcils.
Ne me regardez pas d'un air si furieux, Basil. C'était chez ma tante, Lady Agathe. Elle me dit qu'elle avait fait la connaissance d'un merveilleux jeune homme qui voulait bien l'accompagner dans le East End et qu'il s'appelait Dorian Gray. Je puis assurer qu'elle ne me parla jamais de lui comme d'un beau jeune homme. Les femmes ne se rendent pas un compte exact de ce que peut être un beau jeune homme, les braves femmes tout au moins.
Elle me dit qu'il était très sérieux et qu'il avait un bon caractère.
Je m'étais du coup représenté un individu avec des lunettes et des cheveux plats, des taches de rousseur se dandinant sur d'énormes pieds. J'aurais aimé savoir que c'était votre ami.
Je suis heureux que vous ne l'ayez point su.
Et pourquoi?
Je ne désire pas que vous le connaissiez.
Vous ne désirez pas que je le connaisse?
Non.
Monsieur Dorian Gray est dans l'atelier, monsieur, dit le majordome en entrant dans le jardin.
Vous allez bien être forcé de me le présenter maintenant, s'écria en riant Lord Henry. Le peintre se tourna vers le serviteur qui restait au soleil, les yeux clignotants.
« Dites à Monsieur Gray d'attendre Parker. Je suis à lui dans un moment. »
L'homme s'inclina et retourna sur ses pas.
Hallward regarda Lord Henry.
« Dorian Gray est mon plus cher ami, dit-il. C'est une simple et belle nature. Votre tante a eu parfaitement raison de dire de lui ce que vous m'avez rapporté. Ne me le gâtez pas. N'essayez point de l'influencer. Votre influence lui serait pernicieuse. Le monde est grand et ne manque pas de gens intéressants
ne m'enlevez pas la seule personne qui donne à mon art le charme qu'il peut posséder. Ma vie d'artiste dépend de lui. Faites attention, Harry, je vous en conjure. »
Il parlait à voix basse, et les mots semblaient jaillir de ses lèvres, malgré sa volonté.
« Quelle bêtise, me dites-vous » dit Lord Henry souriant, et prenant Hallward par le bras, il le conduisit, presque malgré lui, dans la maison.
Fin du chapitre 1. Chapitre 2. De le portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Linda Olsen-Faytak, Los Angeles. En entrant, ils aperçurent Dorian Gray. Il était assis au piano, leur tournant le dos, feuilletant les pages d'un volume des scènes de la forêt de Schumann. « Vous allez me les prêter, Basil, » cria-t-il. « Il faut que je les apprenne. C'est tout à fait charmant. »«
Cela dépend comment vous poserez aujourd'hui, Dorian. »
« Oh, je suis fatigué de poser, et je n'ai pas besoin d'un portrait grandeur naturelle, » riposta l'adolescent, en évoluant sur le tabouret du piano d'une manière pétulante et volontaire. Une légère rougeur colora ses joues quand il aperçut Lord Henry, et il s'arrêta court.
« Je vous demande pardon, Basil, mais je ne savais pas que vous étiez avec quelqu'un. »«
C'est Lord Henry Wotton, Dorian. » Un de mes vieux amis d'Oxford. Je lui disais justement quel admirable modèle vous étiez, et vous venez de tout gâter.
Mais mon plaisir n'est pas gâté de vous rencontrer, monsieur Gray, dit Lord Henry en s'avançant et lui tendant la main. Ma tante m'a parlé souvent de vous. Vous êtes un de ses favoris, et je le crains peut-être aussi, une de ses victimes.
Hélas! « Je suis à présent dans ces mauvais papiers, » répliqua Dorian, avec une moue drôle de repentir. « Mardi dernier, je lui avais promis de l'accompagner à un club de Whitechapel, et j'ai parfaitement oublié ma promesse. Nous devions jouer ensemble trois duos plutôt. Je ne sais pas ce qu'elle va me dire. Je suis épouvantée à la seule pensée d'aller la voir.
Oh, je vous raccommoderai avec ma tante. »
Elle vous est toute dévouée, et je ne crois pas qu'il y ait réellement matière à fâcherie. L'auditoire comptait sur un duo. Quand ma tante, Agathe, se met au piano, elle fait du bruit pour deux.
C'est méchant pour elle, et pas très gentil pour moi, dit Dorian en éclatant de rire.
Lord Henry l'observait. Certes, il était merveilleusement beau, avec ses lèvres écarlates, finement dessinées, ses clairs yeux bleus, sa chevelure aux boucles dorées. Tout dans sa face attirait la confiance. On y trouvait la candeur de la jeunesse jointe à la pureté ardente de l'adolescence. On sentait que le monde ne l'avait pas encore souillé. Comment s'étonner que Basil Hallward l'estimât pareillement ?
Vous êtes vraiment trop charmant pour vous occuper de philanthropie, monsieur Gray, trop charmant.
Et Lord Henry, s'étendant sur le divan, ouvrit son étui à cigarettes. Le peintre s'occupait fiévreusement de préparer sa palette et ses pinceaux. Il avait l'air ennuyé. Quand il entendit la dernière remarque de Lord Henry, il le fixa. Il hésita un moment, puis se décidant.
« Harry, dit-il, j'ai besoin de finir ce portrait aujourd'hui. M'en voudriez-vous si je vous demandais de partir ?»
Lord Henry sourit et regarda Dorian Gray.
« Dois-je m'en aller, monsieur Gray ? » interrogea-t-il.
« Oh non, je vous en prie, Lord Henry. Je vois que Basil est dans de mauvaises dispositions. » Et je ne puis le supporter quand il fait la tête. D'abord, j'ai besoin de vous demander pourquoi je ne devrais pas m'occuper de philanthropie.
Je ne sais ce que je dois vous répondre, monsieur Gray. C'est un sujet si assommant qu'on ne peut en parler que sérieusement.
Mais je ne m'en irai certainement pas.
puisque vous me demandez de rester. Vous ne tenez pas absolument à ce que je m'en aille, Basil, n'est-ce pas? Ne m'avez-vous dit souvent que vous aimiez avoir quelqu'un pour bavarder avec vos modèles?
Hallward se mordit les lèvres.
Puisque Dorian le désire, vous pouvez rester. Ses caprices sont des lois pour chacun, excepté pour lui.
Lord Henry prit son chapeau et ses gants.
Vous êtes trop bon, Basil, mais je dois m'en aller. J'ai un rendez-vous avec quelqu'un à l'Orléans.
Adieu, Monsieur Gray.
Venez me voir un de ces après-midi à Curzon Street. Je suis presque toujours chez moi vers 5 heures. Écrivez-moi quand vous viendrez. Je serai désolé de ne pas vous rencontrer. Basil, s'écria Dorian Gray. Si Lord Henry Wotton s'en va, je m'en vais aussi. Vous n'ouvrez jamais la bouche quand vous peignez, et c'est horriblement ennuyeux de rester planté sur une plateforme et d'avoir l'air aimable. Demandez-lui de rester. J'insiste pour qu'il reste.
Restez donc, Harry, pour satisfaire Dorian et pour me satisfaire, dit Hallward, regardant attentivement le tableau.
C'est vrai d'ailleurs, je ne parle jamais quand je travaille et n'écoute davantage. Et je comprends que ce soit agaçant pour mes infortunés modèles. Je vous prie de rester.
Mais que va penser la personne qui m'attend à l'Orléans?
Le peintre se mit à rire.
Je pense que cela s'arrangera tout seul. Asseyez-vous, Harry. Et maintenant, Dorian, montez sur la plateforme. Ne bougez pas trop et tâchez de n'apporter aucune attention à ce que vous dira Lord Henry. Son influence est mauvaise pour tout le monde, sauf pour moi seul.
Dorian Gray gravit la plateforme avec l'air d'un jeune martyr grec, en faisant une petite moue de mécontentement à Lord Henry, qu'il avait déjà pris en affection. Il était si différent de Basil. Tous deux, ils formaient un délicieux contraste. Et Lord Henry avait une voix si belle.
Au bout de quelques instants, il lui dit « Est-ce vrai que votre influence soit aussi mauvaise que Basil veut bien le dire ?»«
Il n'y a pas de bonne influence, Monsieur Gray. Toute influence est immorale. »«
Immorale au point de vue scientifique. »«
Et pourquoi ?»«
Parce qu'influencer une personne, c'est lui donner un peu de sa propre âme. » Elle ne pense plus avec ses pensées naturelles. Elle ne brûle plus avec ses passions naturelles.
Ses vertus ne sont plus siennes. Ses péchés, s'il y a quelque chose de semblable à des péchés, sont empruntés.
Elle devient l'écho d'une musique étrangère, l'acteur d'une pièce qui ne fut point écrite pour elle.
Le but de la vie est le développement de la personnalité.
Réaliser sa propre nature, c'est ce que nous tâchons tous de faire.
Les hommes sont effrayés d'eux-mêmes aujourd'hui. Ils ont oublié le plus haut de tous les devoirs, le devoir que l'on se doit à soi-même. Naturellement, ils sont charitables. Ils nourrissent le pauvre et vêtent le loqueteux. Mais ils laissent crever de faim leur âme et vont nus.
Le courage nous a quittés. Peut-être n'en eûmes-nous jamais.
La terreur de la société, qui est la base de toute morale, la terreur de Dieu, qui est le secret de la religion, voilà les deux choses qui nous gouvernent. Et encore, tournez votre tête un peu plus à droite, Dorian, comme un bon petit garçon, dit le peintre, enfoncé dans son œuvre, venant de surprendre dans la physionomie de l'adolescent un air qu'il ne lui avait jamais vu.
Et encore, continua la voix musicale de Lord Henry sur un mode bas, avec cette gracieuse flexion de la main qui lui était particulièrement caractéristique et qu'il avait déjà au collège des temps.
Je crois que si un homme voulait vivre sa vie pleinement et complètement, voulait donner une forme à chaque sentiment,
une expression à chaque pensée, une réalité à chaque rêve. Je crois que le monde subirait une telle poussée nouvelle de joie que nous en oublierions toutes les maladies médiévales pour nous en retourner vers l'idéal grec. Peut-être même à quelque chose de plus beau, de plus riche que cet idéal. Mais le plus brave d'entre nous est épouvanté de lui-même. Le reniement de nos vies est tragiquement semblable à la mutilation des fanatiques. Nous sommes punis pour nos refus. Chaque impulsion que nous essayons d'anéantir germe en nous et nous empoisonne. Le corps pêche d'abord et se satisfait avec son péché, car l'action est un mode de purification. Rien ne nous reste que le souvenir d'un plaisir ou la volupté d'un regret. Le seul moyen de se débarrasser d'une tentation est d'y céder. Essayez de lui résister et votre âme aspire maladivement aux choses qu'elle s'est défendues, avec en plus le désir pour ce que des lois monstrueuses ont fait illégal et monstrueux. Ceci a été dit, que les grands événements du monde prennent place dans la cervelle. C'est dans la cervelle, et là seulement, que prennent aussi place les grands péchés du monde. Vous, monsieur Gray, vous-même, avec votre jeunesse rose-rouge et votre enfance rose-blanche, vous avez eu des passions qui vous ont effrayé, des pensées qui vous ont rempli de terreur, des jours de rêve et des nuits de rêve dont le simple rappel colorait de honte vos joues. Arrêtez, dit Dorian Gray hésitant. Arrêtez. Vous m'embrassez. Je ne sais que vous répondre. J'ai une réponse à vous faire que je ne puis trouver. Ne parlez pas. Laissez-moi penser, ou plutôt, laissez-moi essayer de ne pas penser. » Pendant presque 10 minutes, il demeura sans faire un mouvement, les lèvres entr'ouvertes et les yeux étrangement brillants. Il semblait avoir obscurément conscience que le travaillait des influences tout à fait nouvelles, mais elles lui paraissaient venir entièrement de lui-même. Les quelques mots que l'ami de Basil lui avait dit, maudits sans doute par hasard et chargés de paradoxes voulus, avaient touché quelques cordes secrètes qui n'avaient jamais été touchées auparavant, mais qu'il sentait maintenant palpitante et vibrante en lui. La musique l'avait ainsi remué déjà, elle l'avait troublé bien des fois. Ce n'est pas un nouveau monde, mais bien plutôt un nouveau chaos qu'elle crée en nous. Les mots, les simples mots, combien ils sont terribles, combien limpides, éclatants ou cruels. On voudrait leur échapper. Quelle subtile magie est donc en eux. On dirait qu'ils donnent une forme plastique aux choses informes et qu'ils ont une musique propre aussi douce que celle du luth ou du violon. Les simples mots. Est-il quelque chose de plus réel que les mots? Oui, il y avait eu des choses dans son enfance qu'il n'avait point comprises. Il les comprenait maintenant. La vie lui apparut soudain ardemment colorée. Il pensa qu'il avait jusqu'alors marché à travers les flammes. Pourquoi ne s'était-il jamais douté de cela? Lord Henry le guettait, son mystérieux sourire aux lèvres. Il connaissait le moment psychologique du silence. Il se sentait vivement intéressé. Il s'étonnait de l'impression subite que ses paroles avaient produite. Se souvenant d'un livre qu'il avait lu quand il avait 16 ans et qui lui avait révélé ce qu'il avait toujours ignoré, il s'émerveilla de voir Dorian Gray passer par une semblable expérience. Il avait simplement lancer une flèche en l'air. Avait-elle touché le but? Ce garçon était vraiment intéressant.
Hallward peignait avec cette remarquable sûreté de main qui le caractérisait. Il possédait cette élégance, cette délicatesse parfaite qui, en art, proviennent toujours de la vraie force. Il ne faisait pas attention au long silence planant dans l'atelier.
« Basil, je suis fatigué de poser, » cria tout à coup Dorian Gray. « J'ai besoin de sortir et d'aller dans le jardin. L'air ici est suffocant. »«
Mon cher ami, j'en suis désolé. Mais quand je peins, je ne pense à rien autre chose. Vous n'avez jamais mieux posé. Vous étiez parfaitement immobile et j'ai saisi l'effet que je cherchais. Les lèvres demi-ouvertes et l'éclair des yeux. Je ne sais pas ce que Harry a pu vous dire. » Mais c'est à lui certainement que vous devez cette merveilleuse expression.
Je suppose qu'il vous a complimenté.
Il ne faut pas croire un mot de ce qu'il dit.
Il ne m'a certainement pas complimenté.
Peut-être est-ce la raison pour laquelle je ne veux rien croire de ce qu'il m'a raconté.
Bah ! Vous savez bien que vous croyez tout ce que je vous ai dit,
riposta Lord Henry, le regardant avec ses yeux langoureux et rêveurs. Je vous accompagnerai au jardin. Il fait une chaleur impossible dans cet atelier.
Basil, faites-nous donc servir quelque chose de glacé, une boisson quelconque aux fraises.
Comme il vous conviendra, Harry. Sonnez Parker. Quand il viendra, je lui dirai ce que vous désirez. J'ai encore à travailler le fond du portrait. Je vous rejoindrai bientôt. Ne me gardez pas de rien trop longtemps. Je n'ai jamais été pareillement disposé à peindre. Ce sera sûrement mon chef-d'œuvre. Et ce l'est déjà.
Lord Henry, en pénétrant dans le jardin, trouva Dorian Gray la face ensevelie dans un frais bouquet de lilas, en aspirant ardemment le parfum comme un vin précieux. Il s'approcha de lui et mit la main sur son épaule.
Très bien, lui dit-il. Rien ne peut mieux guérir l'âme que les sens, comme rien ne saurait mieux que l'âme guérir les sens. L'adolescent tressaillit et se retourna. Il était tête nue, et les feuilles avaient dérangé ses boucles rebelles, emmêlé leurs fils dorés. Dans ses yeux nageait comme de la crainte. Cette crainte que l'on trouve dans les yeux des gens éveillés en sursaut. Ses narines, finement dessinées, palpitaient. Et quelque trouble caché aviva le carmin de ses lèvres frissonnantes.
« Oui, continua Lord Henry, c'est un des grands secrets de la vie. Guérir l'âme au moyen des sens, et les sens au moyen de l'âme. »
Vous êtes une admirable créature. Vous savez plus que vous ne pensez savoir, tout ainsi que vous pensez connaître moins que vous ne connaissez.
Dorian Gray prit un air chagrin et tourna la tête.
Certes, il ne pouvait s'empêcher d'aimer le beau et gracieux jeune homme qu'il avait en face de lui. Sa figure, olivâtre et romanesque, à l'expression fatiguée, l'intéressait. Il y avait quelque chose d'absolument fascinant dans sa voix languide et basse. Ses mains mêmes, ses mains fraîches et blanches, pareilles à des fleurs, possédaient un charme curieux. Ainsi que sa voix, elle semblait musicale, elle semblait avoir un langage à elle. Il lui faisait peur, et il était honteux d'avoir peur. Il avait fallu que cet étranger vînt pour le révéler à lui-même. Depuis des mois, il connaissait Basil Hallward et son amitié ne l'avait pas changé. Quelqu'un avait passé dans son existence qui lui avait découvert le mystère de la vie. Qui avait-il donc qui l'effrayait ainsi? Il n'était ni une petite fille, ni un collégien. C'était ridicule, vraiment.
« Allons nous asseoir à l'ombre, » dit Lord Henry. Parker nous a servi à boire,
Et si vous restiez plus longtemps au soleil, vous pourriez vous abîmer le teint et Basile ne voudrait plus vous peindre. Ne risquez pas d'attraper un coup de soleil, ce ne serait pas le moment. Qu'est-ce que cela peut faire? S'écria Dorian Gray en riant comme il s'asseyait au fond du jardin.
C'est pour vous de toute importance, monsieur Gray.
Tiens, et pourquoi?
Parce que vous possédez une admirable jeunesse et que la jeunesse est la seule chose désirable.
Oh, je ne m'en soucie pas.
Vous ne vous en souciez pas maintenant.
Un jour viendra quand vous serez vieux, ridé, laid, quand la pensée aura marqué votre front de sa griffe et la passion flétri vos lèvres de stigmates hideux. Un jour viendra, dis-je, où vous vous en soucierez amèrement.
Où que vous alliez actuellement, vous charmez.
En sera-t-il toujours ainsi?
Vous avez une figure adorablement belle, monsieur Gray.
Ne vous fâchez point, vous l'avez.
Et la beauté est une des formes du génie, la plus haute même, car elle n'a pas besoin d'être expliquée. C'est un des faits absolus du monde, comme le soleil, le printemps ou le reflet dans les eaux sombres de cette coquille d'argent que nous appelons la lune. Cela ne peut être discuté. C'est une souveraineté de droit divin. Elle fait des princes de ceux qui la possèdent.
Vous souriez?
Ah, vous ne sourirez plus quand vous l'aurez perdue.
On dit parfois que la beauté n'est que superficielle.
Cela peut être, mais tout au moins, elle est moins superficielle que la pensée.
Pour moi, la beauté est la merveille des merveilles. Il n'y a que les gens bornés qui ne jugent pas sur l'apparence. Le vrai mystère du monde est le visible, non l'invisible.
Oui, monsieur Gray, les dieux vous furent bons.
Mais ce que les dieux donnent, ils le reprennent vite.
Vous n'avez que peu d'années à vivre réellement, parfaitement, pleinement.
Votre beauté s'évanouira avec votre jeunesse, et vous découvrirez tout à coup qu'il n'est plus de triomphe pour vous, et qu'il vous faudra vivre désormais sur ces menus triomphes que la mémoire du passé rendra plus amers que des défaites. Chaque mois vécu vous approche de quelque chose de terrible. Le temps est jaloux de vous et guerroie contre vos lys et vos roses. Vous blêmirez, vos joues se creuseront et vos regards se faneront. Vous souffrirez horriblement.
Ah ! Réalisez votre jeunesse pendant que vous l'avez. Ne gaspillez pas l'or de vos jours en écoutant les sots essayant d'arrêter l'inéluctable défaite, et gardez-vous de l'ignorant, du commun et du vulgaire.
C'est le but maladif, l'idéal faux de notre âge. Vivez,
vivez la merveilleuse vie qui est en vous.
N'en laissez rien perdre.
Cherchez de nouvelles sensations toujours,
que rien ne vous effraie.
Un nouvel hédonisme, voilà ce que le siècle demande.
Vous pouvez en être le tangible symbole.
Il n'est rien avec votre personnalité que vous ne puissiez faire. Le monde vous appartient,
pour un temps. Alors que je vous rencontrais, je vis que vous n'aviez point conscience de ce que vous étiez, de ce que vous pouviez être.
Il y avait en vous quelque chose de si particulièrement attirant que je sentis qu'il me fallait vous révéler à vous-même dans la crainte tragique de vous voir vous gâcher, car votre jeunesse a si peu de temps à vivre, si peu. Les fleurs se dessèchent, mais elles refleurissent.
Cet aubour sera aussi florissant au mois de juin de l'année prochaine qu'il l'est à présent.
Dans un mois, cette clématite portera des fleurs pourprées et d'année en année, ces fleurs de pourpre
illumineront le vert de ses feuilles. Mais nous, ne revivrons jamais notre jeunesse. Le pouls de la joie qui bat en nous à 20 ans va s'affaiblissant. Nos membres se fatiguent et s'alourdissent nos sens. Tous, nous deviendrons d'odieux polichinelles, hantés par la mémoire de ce dont nous fûmes effrayés, par les exquises tentations que nous n'avons pas eu le courage de satisfaire. Jeunesse, jeunesse, rien n'est au monde que la jeunesse.
Les yeux grands ouverts, Dorian Gray écoutait. C'est merveillant.
La branche de lilas tomba de sa main à terre. Une abeille se précipita, tourna autour un moment, bourdonnante, et ce fut un frisson général des globes étoilés des mignonnes fleurs.
Il regardait cela avec cet étrange intérêt que nous prenons aux choses menues quand nous sommes préoccupés de problèmes qui nous effraient,
quand nous sommes ennuyés par une nouvelle sensation pour laquelle nous ne pouvons trouver d'expression, ou terrifiés par une obsédante pensée à qui nous nous sentons forcés de céder. Bientôt, l'abeille prit son vol. Il l'aperçut se posant sur le calice tacheté d'un convolvulus tyrien. La fleur s'inclina et se balança dans le vide, doucement. Soudain, le peintre apparut à la porte de l'atelier et leur fit des signes réitérés. Ils se tournèrent l'un vers l'autre en souriant.
« Je vous attends. Rentrez donc. La lumière est très bonne en ce moment et vous pouvez apporter vos boissons. »
Ils se levèrent et paresseusement marchèrent le long du mur. Deux papillons verts et blancs voltigeaient devant eux, et dans un poirier situé au coin du mur, une grive se mit à chanter.
« Vous êtes content, monsieur Gray, de m'avoir rencontré ?» demanda Lord Henry en le regardant.
« Oui, j'en suis content. Maintenant,
j'imagine que je le serai toujours.
Toujours ? C'est un mot terrible qui me fait frémir quand je l'entends. Les femmes l'emploient tellement. Elles abîment tous les romans en essayant de les faire s'éterniser. C'est un mot sans signification désormais.
La seule différence qui existe entre un caprice et une éternelle passion est que le caprice dure plus longtemps. »
Comme ils entraient dans l'atelier, Dorian Gray mit sa main sur le bras de Lord Henry.
« Dans ce cas, que notre amitié ne soit qu'un caprice, » murmura-t-il, rougissant de sa propre audace.
Il monta sur la plateforme et reprit sa pose. Lord Henry s'était étendu dans un large fauteuil d'osier et l'observait. Le va-et-vient du pinceau sur la toile et les allées venues de Hallward, se reculant pour juger de l'effet, brisaient seul le silence. Dans les rayons obliques venant de la porte entr'ouverte, une poussière dorée dansait. La senteur lourde des roses semblait peser sur toute chose. Au bout d'un quart d'heure, Hallward s'arrêta de travailler, regardant alternativement longtemps Dorian Gray et le portrait, mordillant le bout de l'un de ses gros pinceaux, les sourcils crispés.
« Fini !»
cria-t-il, et se baissant, il écrivit son nom en hautes lettres de vermillon sur le coin gauche de la toile. Lord Henry vint regarder le tableau. C'était une admirable œuvre d'art, d'une ressemblance merveilleuse.
« Mon cher ami, permettez-moi de vous féliciter chaudement, » dit-il.
« C'est le plus beau portrait des temps modernes.
Monsieur Gray, venez vous regarder. »
L'adolescent tressaillit comme éveillé de quelque rêve.
« Est-ce réellement fini ? » murmura-t-il en descendant de la plateforme.
« Tout à fait fini, » dit le peintre. « Et vous avez aujourd'hui posé comme un ange. Je vous suis, on ne peut plus obliger.
« Cela m'est entièrement dû, » reprit Lord Henry.
« N'est-ce pas, Monsieur Gray ?» Dorian ne répondit pas. Il arriva nonchalamment vers son portrait et se tourna vers lui. Quand il l'aperçut, il sursauta, et ses joues rougirent un moment de plaisir. Un éclair de joie passa dans ses yeux, car il se reconnut pour la première fois. Il demeura quelque temps immobile, admirant, se doutant que Hallward lui parlait sans comprendre la signification de ses paroles. Le sens de sa propre beauté surgit en lui comme une révélation. Il ne l'avait jusqu'alors jamais perçue. Les compliments de Basil Hallward lui avaient semblé être simplement des exagérations charmantes d'amitié. Il les avait écoutés en riant et vite oubliés. Son caractère n'avait point été influencé par eux. Lord Henry Wotton était venu, avec son étrange panégyrique de la jeunesse, l'avertissement terrible de sa brièveté. Il en avait été frappé à point nommé, et à présent, en face de l'ombre de sa propre beauté, il en sentait la pleine réalité s'épandre en lui. Oui, un jour viendrait où sa face serait ridée et plissée, ses yeux creusés et sans couleur, la grâce de sa figure brisée et déformée. L'écarlate de ses lèvres passerait comme se ternirait l'or de sa chevelure. La vie qui devait façonner son âme abîmerait son corps. Il deviendrait horrible, hideux, baroque. Comme il pensait à tout cela, une sensation aiguë de douleur le traversa comme une dague et fit frissonner chacune des délicates fibres de son être. L'améthyste de ses yeux se fonça. Un brouillard de larmes les obscurcit. Il sentit qu'une main de glace se posait sur son cœur. « Aimez-vous cela ?» cria enfin Hallward, quelque peu étonné du silence de l'adolescent qu'il ne comprenait pas. « Naturellement, il l'aime !» dit Lord Henry. « Pourquoi ne l'aimerait-il pas ? C'est une des plus nobles choses de l'art contemporain. Je vous donnerai ce que vous voudrez pour cela. Il faut que je l'aie. »« Ce n'est pas ma propriété, Harry. » »« À qui est-ce donc alors ?» « À Dorian, pardieu !» répondit le peintre. « Il est bien heureux. » « Quelle chose profondément triste !» murmurait Dorian, les yeux encore fixés sur son portrait. « Eh oui, profondément triste. Je deviendrai vieux, horrible, affreux. Mais cette peinture restera toujours jeune. Elle ne sera jamais plus vieille que ce jour même de juin. Ah, si cela pouvait changer! Si c'était moi qui toujours devais rester jeune, et si cette peinture pouvait vieillir! Pour cela, je donnerais tout! Il n'est rien dans le monde que je ne donnerais, mon âme même! Vous trouveriez difficilement un pareil arrangement, cria Lord Henry en éclatant de rire. Eh, je m'y opposerai d'ailleurs, dit le peintre. Dorian Gray se tourna vers lui. Je le crois, Basil. Vous aimez votre art mieux que vos amis. Je ne vous suis ni plus ni moins qu'une de vos figures de bronze vert, à peine autant plus tôt. Le peintre le regarda avec étonnement. Il était si peu habitué à entendre Dorian s'exprimer ainsi. Qu'était-il donc arrivé? C'est vrai qu'il semblait désolé. Sa face était toute rouge et ses joues allumées. « Oui, continua-t-il, je vous suis moins que votre Hermès d'ivoire ou que votre faune d'argent. Vous les aimerez toujours, eux. Combien de temps m'aimerez-vous? Jusqu'à ma première ride, sans doute? Je sais maintenant que quand on perd ses charmes, quels qu'ils puissent être, on perd tout. Votre œuvre m'a appris cela. Oui, Lord Henry Wotton a raison tout à fait. La jeunesse est la seule chose qui vaille. Quand je m'apercevrai que je vieillis, je me tuerai. » Hallward pâlit et prit sa main.
« Dorian, Dorian !» cria-t-il. « Ne parlez pas ainsi. Je n'ai jamais un ami tel que vous et jamais je n'en aurai un autre. Vous ne pouvez être jaloux des choses matérielles, n'est-ce pas? N'êtes-vous pas plus beau qu'aucune d'elles ?»«
Je suis jaloux de toutes choses dont la beauté ne meurt pas. Je suis jaloux de mon portrait. Pourquoi gardera-t-il ce que je perdrai ? Chaque moment qui passe me prend quelque chose et embellit ceci. Oh, si cela pouvait changer, si ce portrait pouvait vieillir, si je pouvais rester tel que je suis. Pourquoi avez-vous peint cela? Quelle ironie un jour, quelle terrible ironie !»
Des larmes brûlantes emplissaient ses yeux. Il se tordait les mains. Soudain, il se précipita sur le divan et ensevelit sa face dans les coussins, à genoux, comme s'il priait.
« Voilà votre œuvre, Harry, » dit le peintre amèrement.
Lord Henry leva les épaules. « Voilà le vrai Dorian Gray, vous voulez dire.
Ce n'est pas...
Si ce n'est pas, comment cela me regarde-t-il alors?
Vous auriez dû vous en aller quand je vous le demandais, » souffla-t-il.
« Je suis resté parce que vous me l'avez demandé, » riposta Lord Henry.
« Harry, je ne veux pas me quereller maintenant avec mes deux meilleurs amis, mais par votre faute à tous les deux, vous me faites détester ce que j'ai jamais fait de mieux, et je vais l'anéantir. Qu'est-ce après tout qu'une toile et des couleurs? Je ne veux point que ceci puisse abîmer nos trois vies. »
Dorian Gray leva sa tête dorée de l'amas des coussins et sa face pâle, baignée de larmes. Il regarda le peintre marchant vers une table située sous les grands rideaux de la fenêtre. Qu'allait-il faire? Ses doigts, parmi le fouillis des tubes d'étain et des pinceaux secs, cherchaient quelque chose. Cette lame mince d'acier flexible, le couteau à palette, il l'avait trouvé. Il allait anéantir la toile. Suffoquant de sanglots, le jeune homme bondit du divan et, se précipitant vers Hallward, arracha le couteau de sa main et le lança à l'autre bout de l'atelier.
« Basil, je vous en prie, ce serait un meurtre !»«
Je suis charmé de vous voir apprécier enfin mon œuvre, » dit le peintre froidement en reprenant son calme. « Je n'aurais jamais attendu cela de vous. »«
L'apprécier ? Je l'adore, Basil. Je sens que c'est un peu de moi-même. »«
Alors bien, aussitôt que vous serez sec, vous serez verni, encadré, expédié chez vous, alors vous ferez ce que vous jugerez bon de vous-même. »
Il traversa la chambre et sonna pour le thé.
« Vous voulez du thé, Dorian? Et vous aussi, Harry? Ou bien présentez-vous quelque objection à ces plaisirs simples ?»«
J'adore les plaisirs simples, » dit Lord Henry.
« Ce sont les derniers refuges des êtres complexes.
Mais je n'aime pas les scènes, excepté sur les planches. Quel drôle de corps vous êtes tous deux.
Je m'étonne qu'on ait défini l'homme un animal raisonnable. Pour prématurer, cette définition l'est. L'homme est bien des choses, mais il n'est pas raisonnable.
Je suis charmé qu'il ne le soit pas, après tout. Je désire surtout que vous ne vous querelliez pas à propos de ce portrait. Tenez, Basil, vous auriez mieux fait de me l'abandonner. « Ce méchant garçon n'en a pas aussi réellement besoin que moi. »«
Si vous le donniez à un autre qu'à moi, Basil, je ne vous le pardonnerai jamais !» s'écria Dorian Gray.
« Et je ne permets à personne de m'appeler méchant garçon. »«
Vous savez que ce tableau vous appartient, Dorian. Je vous le donnais avant qu'il ne fût fait. »«
Et vous savez aussi que vous avez été un petit peu méchant, monsieur Gray, et que vous ne pouvez vous révolter quand on vous fait souvenir que vous êtes extrêmement jeune.
Je me serais carrément révolté ce matin, Lord Henry.
Ah, ce matin!
Vous avez vécu depuis?
On frappa à la porte et le majordome entra portant un service à thé qu'il disposa sur une petite table japonaise. Il y eut un bruit de tasses et de soucoupes et la chanson d'une bouillotte cannelée de Géorgie. Deux plats chinois en forme de globe furent apportés par un valet. Dorian Gray se leva et servit le thé. Les deux hommes s'acheminèrent paresseusement vers la table et examinèrent ce qui était sous les couvercles des plats.
« Allons au théâtre ce soir, » dit Lord Henry.
« Il doit y avoir du nouveau quelque part. J'ai promis de dîner chez White, mais comme c'est un vieil ami, je puis lui envoyer un télégramme pour lui dire que je suis indisposé ou que je suis empêché de venir par suite d'un engagement postérieur. Je pense que cela serait plutôt une jolie excuse. Elle aurait tout le charme de la candeur. »
C'est assommant de passer un habit, ajouta Hallward, et quand on l'a mis, on est parfaitement horrible.
Oui, répondit Lord Henry, rêveusement, le costume du XIXe siècle est détestable.
C'est sombre, déprimant.
Le péché est réellement le seul élément de quelque couleur dans la vie moderne.
Vous ne devriez pas dire de telles choses devant Dorian, Henry.
Devant quel Dorian? Celui qui nous verse du thé ou celui du portrait?
Devant les deux.
J'aimerais aller au théâtre avec vous, Lord Henry, dit le jeune homme.
Eh bien, venez. Et vous aussi, n'est-ce pas, Basil?
Je ne puis pas, vraiment. Je préfère rester. J'ai un tas de choses à faire.
Bien donc, vous et moi, monsieur Gray, nous sortirons ensemble.
Je le désire beaucoup.
Le peintre se mordit les lèvres et, la tasse à la main, il se dirigea vers le portrait.
« Je resterai avec le réel, Dorian Gray, » dit-il tristement.
« Est-ce là le réel, Dorian Gray ?» cria l'original du portrait, s'avançant vers lui. « Suis-je réellement comme cela ?»«
Oui, vous êtes comme cela. »
C'est vraiment merveilleux, Basil.
Au moins, vous l'êtes en apparence.
Mais cela ne changera jamais, ajouta Hallward. C'est quelque chose.
Voici bien des affaires à propos de fidélité, s'écria Lord Henry.
Mais mon amour, c'est purement une question de tempérament. Cela n'a rien à faire avec notre propre volonté. Les jeunes gens veulent être fidèles et ne le sont point. Les vieux veulent être infidèles et ne le peuvent. Voilà tout ce qu'on en sait.
N'allez pas au théâtre ce soir, Dorian, dit Hallward. Restez dîner avec moi.
Je ne le puis, Basil.
Pourquoi?
Parce que j'ai promis à Lord Henry Wotton d'aller avec lui.
Il ne vous en voudra pas beaucoup de manquer à votre parole.
Il manque assez souvent à la sienne.
Je vous demande de n'y pas aller.
Dorian Gray se mit à rire en secouant la tête.
Je vous en conjure.
Le jeune homme hésitait et jeta un regard vers Lord Henry qui les guettait de la table où il prenait le thé avec un sourire amusé.
Je veux sortir, Basil, décida-t-il.
Très bien, repartit Hallward, et il alla remettre sa tasse sur le plateau.
Il est tard, et comme vous devez vous habiller, vous feriez bien de ne pas perdre de temps.
Au revoir, Harry.
Au revoir, Dorian.
Venez me voir bientôt, demain, si possible.
Certainement.
Vous n'oublierez pas.
Naturellement.
Et Harry?
Moi non plus, Basil.
Souvenez-vous de ce que je vous ai demandé,
quand nous étions dans le jardin ce matin. Je l'ai oublié. Je compte sur vous.
Je voudrais bien pouvoir compter sur moi-même, dit en riant Lord Henry.
Venez, monsieur Gray, mon cabriolet est en bas et je vous déposerai chez vous.
Adieu, Basil. Merci pour votre charmant après-midi.
Comme la porte se fermait derrière eux, le peintre s'écroula sur un sofa et une expression de douleur se peignit sur sa face.
Fin du chapitre 2.
You have 5 new messages.
Hey Carl, it's Jen from Finance. Could you submit your expenses this week?
Hey Carl, happy Friday. It's Jen, Finance. Just need those receipts today.
Me again, Carl. Really need those receipts, like last week. Please just tell me where they are. Are you by your desk right now?
Finance teams, you shouldn't be chasing down Carl or anyone else. With Ramp, expenses are sent with a text and reminders happen automatically. Switch your business to ramp.com today and love finance again.
When we started writing our thoughts down on paper, it opened up endless possibilities. Ideas could grow beyond the borders of the mind, and it changed the world. Somewhere along the way, we lost touch with paper, distracted by devices made for every purpose except for thinking and focus. On edge, waiting for the next notification. But what if new technology didn't pull us away from paper, but brought us closer to it? Listen. That's not paper. It's the sound of the new Remarkable Paper Pro, rewriting the future. A paper tablet with a true color ink display, gentle reading light, and unheard of tactility. With digital features for taking notes, thinking, and organizing, without any distractions. Paper is about to change the world again. Get your paper tablet at remarkable.com today.